Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Partout au Québec et sur l'application BPM Sport. T'écoutes le retour des sportifs.
Le retour des sportifs avec FX Bénard et Jacob Langlois-Pelletier. On est très content d'aller le retrouver. C'est toujours un devoir de parler avec l'excellent Martin Thériault du podcast La Relève. Un gros merci de prendre le temps de nous jaser aujourd'hui. Comment ça va, Martin?
Ça va bien, les gars. Écoute, un petit décor un peu inhabituel là, du côté du club de golf, le Mirage à Terrebonne pour le tournoi de golf de la Fondation et la GMQ, mais on suit les espoirs quand même pas mal. Très heureux de vous parler, prendre une petite pause.
Merci de prendre le temps de faire une petite pause dans ta journée pour nous jaser. Écoute, il y a tellement de sujets que je veux aborder avec toi. Je veux débuter au courant des dernières semaines, Martin. Ça s'est terminé le 2 août dernier. C'était la vitrine estivale du championnat mondial d'hockey junior. Alors, Hockey Canada qui a invité 44 joueurs à être présents durant cette invitation. Notamment, Michael Age était présent dans la liste de joueurs invités. Je veux te parler, lors des deux dernières années, ça a été plus complexe pour le Canada au championnat mondial d'hockey junior. Rappelle-toi, l'an dernier, beaucoup de choix qui avaient été controversés. On avait beaucoup critiqué la sélection et la non-sélection de plusieurs joueurs chez l'équipe Canada junior. Comment tu vois ça se dessiner en vue de la prochaine année? Est-ce que tu as vu lors de cette vitrine estivale?
Ben, je pense que tout d'abord, tu l'as bien mentionné, tu sais, ça avait fait énormément de controverses d'avoir laissé quelques joueurs. Je pense notamment à Beckett Seneca, ouais. Troisième choix au total du repêchage 2024, qui avait même pas été invité au camp, pas simplement l'équipe, n'avait pas été invité au camp. Zane Parekh, c'était la même chose. On parle d'un, moi, j'ai toujours vanté son talent offensif, à quel point il a une intelligence phénoménale, mais on l'avait invité à la dernière minute au camp environ en raison d'une blessure. Ça s'était moins bien passé. Je pense que cette année, à quelque part, Dale Hunter, premièrement, a toujours fait confiance au talent. Ouais. Oui, c'est sûr que tu veux des gars de caractère, c'est sûr que tu veux des gars drôles, des troisièmes, des quatrièmes trios et tout ça. Mais je pense que Hunter va être assez intelligent pour dire ça prend de la vitesse, ça prend de l'exécution, ça prend du rythme et on a besoin d'aller chercher des joueurs très importants à ce niveau-là. Donc, je pense que et je regardais un peu ce qu'on pourrait avoir comme formation potentiellement. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de 19 ans. Je parlais de Beckett Seneca. Je pense que ça, c'est un très gros candidat. Tu penses à un Berkeley Catton. Il n'a pas 19 ans, mais Gavin McKenna revient. Il va avoir une saison très importante. Il va commencer du côté de la NCAA. Tu sais, donc, tu as plusieurs éléments comme ça. Caden Lindstrom, qui est en santé, que moi, personnellement, dans le tournoi estival pour le Mondial Junior, je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'au niveau physique, il se comportait bien. Il était capable d'aller chercher les bagarres devant le filet. Vraiment, lorsqu'il était dans les bagarres un peu contestées, il était très efficace. Il était bon aussi physiquement. Donc, tu sais, tu regroupes tout ça. Tu prends des joueurs avec des gros statuts, des Michael Misa, qui a eu un tournoi moins facile, mais en même temps, c'est normal. C'est quand même un tournoi estival. C'est pas tous les joueurs qui ont le plus en forme, si tu veux. Tu sais, t'as des Jeff Lutfanko, des gars comme ça également qui sont de cette formation-là. Donc, je pense qu'on a encore quelque chose pour aller chercher la médaille d'or. Et j'insiste là-dessus, beaucoup de joueurs de 19 ans, ça va être utile.
Là. Ouais, puis il y a toujours aussi ces joueurs canadiens qui auraient l'âge pour jouer au championnat mondial junior, mais qui occupent des places dans des équipes de la Ligue nationale de hockey. Juste avant d'y aller avec quelques noms en vue de cette formation-là, je veux te parler de l'arrivée justement de Dale Hunter, qui va être l'entraîneur-chef du Canada lors du prochain mondial junior. Est-ce que tu crois qu'on va faire davantage de place aux joueurs de talent? Au courant des dernières années, on a vu aussi les sélections se faire avec des joueurs de rôle chez l'équipe Canada Junior. Est-ce que tu penses qu'on va y aller davantage au talent cette année et moins de joueurs de rôle de troisième et quatrième trio?
Je pense que le luxe qu'on a avec les gros joueurs, que ce soit des choix top 10 ou que ce soit pour le repêchage 2024, pour 2025, c'est que tu as des joueurs de talent et tu as des gars qui sont capables d'occuper des rôles. Je te parlais de Lindstrom, ouais. Je le vois sur un deuxième trio. Mais supposons que ça fonctionne moins bien, tu peux très bien le placer au sein d'un 3 d'un 4e trio, il devient physique. Un gars comme Liam Greentree, qui a moins de coups de patin, qui est un choix de premier tour des Kings de Los Angeles en 2024, moi, je le vois avec l'équipe, peut-être dans un rôle de profondeur, pas un gros coup de patin, mais c'est pas grave, à 19 ans, c'est quand même capable de faire le travail habituellement à ce niveau-là. Et son tir est très dominant. C'est quelqu'un qui est capable d'être fort physiquement. Donc, tu sais, t'es capable d'aller ajouter certains éléments comme ça. Je pense à un Caleb Desnoyers, je pense à des Brady Martin, des gars comme ça. Je pense que t'es capable d'aller chercher, donc, des gars qui sont capables, oui, d'aller chercher de l'attaque, Et si t'as besoin de brasser un peu la soupe d'en placer sur des trois, des quatrièmes trios, ben, je pense que t'auras pas de problème à aller chercher vraiment un peu tout. Puis je pense que le gros avantage d'avoir Dale Hunter, je le répète, là, c'est que oui, c'est un gars d'intensité, oui, c'est un gars de caractère, oui, il veut qu'il y ait une structure défensive, ça, c'est bien évident. Mais je pense qu'aussi que Dale Hunter est capable surtout d'aller chercher de l'attaque. On le veut avec les Knights de London, là. Oui, tu sais, ses meilleurs joueurs, même s'ils sont pas les meilleurs défensivement, il va les utiliser à profusion. Il va leur donner du temps de jeu. Il va les placer dans les meilleures chaises pour exceller et non pas comme un Dave Cameron qui avait Sam Dickinson à gauche. Là, tu débarques en avantage numérique avec l'équipe Canada Junior. Il est pas là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, je pense qu'au moins, Hunter va être un peu plus intelligent là-dessus.
Ouais, on va y revenir aussi de Caleb Desnoyers que tu as mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait avoir une place au sein de cette équipe-là? On y revient dans quelques instants. Avant, je vais te parler des joueurs qui pourraient faire le saut dans la Ligue nationale la saison prochaine, là, justement. Là, quand je parlais des joueurs qui soit vont être dans une équipe de la Ligue nationale qu'on va décider de garder au sein de l'équipe de la Ligue nationale et non les envoyer au Mondial Junior, est-ce qu'il y a des noms là-dedans qui pourraient... Y a-t-il des joueurs canadiens qui pourraient justement se retrouver dans cette situation-là? On passe à Zane Parrick, Martin, qui a terminé l'année avec les Flames de Calgary. Mais parmi une liste de noms, là, Michael Nysa, Matthew Schaefer, Sam Dickinson, Zane Parrick, est-ce que tu t'attends à voir des joueurs comme ça être absents du championnat mondial junior parce que justement, ils ont des rôles dans leur équipe respective dans la Ligue nationale?
Moi, le joueur que je ne vois pas là, c'est Zane Parrick. Justement ouais. Parce que Parrick, selon moi, va se tailler non seulement une place avec les Flames de Calgary, mais on va l'utiliser dans un rôle important. Là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Rasmus Anderson est encore là. T'as beaucoup de rumeurs de transactions. Il y aurait eu une offre intéressante ou laquelle il aurait refusé une offre de contrat. Ça, on verra le jeu de coulisses. Là, il a parlé dans les médias suédois. Il n'était pas nécessairement heureux de la façon dont les Flames l'ont traité, mais bon. T'as Parrick qui est derrière. Parrick, lui, risque d'être un défenseur de deuxième paire environ. Donc, lui, j'ai de la difficulté à voir les Flames le prêter. Mais pour tous les autres, je t'ai parlé de Michael Nysa, FX. Michael Nysa a le coup de patin. C'est quelqu'un qui est capable d'aller au filet, qui est intense et tout ça. Moi, personnellement, avant le tournoi estival pour le Mondial Junior, je le voyais dans la LNH avec les Sharks, mais il m'a déçu quand même pas mal. Je commence à me demander si il pourrait pas davantage signer un contrat. En fait, c'est le contraire, ne pas signer de contrat et s'en aller du côté de la NCAA, ce serait peut-être mieux un petit peu pour son développement, mais ce que ça veut dire, c'est que Misa, je le vois avec l'équipe canadienne junior, je pense qu'on va le prêter, qu'il se taille une place avec les Sharks ou non, je pense que ça va être bon pour son développement. Sam Dickinson va probablement jouer dans la LNH aussi, mais je le vois pas dans un rôle assez important et les Sharks n'ont pas une très grosse machine offensive, on est là pour le développement surtout, donc je pense que c'est pas grave. En fait, c'est même utile pour son développement de le renvoyer là et d'espérer qu'il puisse être en mesure de gagner une médaille d'or. Même chose un peu pour Matthew Schaefer. Matthew Schaefer a 18 ans. Je pense qu'on va l'utiliser avec les Islanders de New York à la défense. Je pense qu'on l'utilise par contre au sein d'une troisième paire. Je pense qu'on va le protéger du jeu physique surtout. Tu sais, l'échec avant qui est très intense. Le fait qu'il y a peut-être un peu moins de temps de réaction. Pas qu'il est pas capable de se débarquer. C'est un gars super intelligent, mais à 18 ans, je me demande s'il manque pas un peu de force physique. Donc, j'ai l'impression que les Islanders vont peut-être faire un peu comme avec Noah Dobson il y a 5 ans, en 2019-2020. On l'avait gardé, on n'avait pas fait jouer énormément de matchs, mais on avait quand même préféré le faire pratiquer avec les professionnels, les joueurs de la LNH, on s'était dit que ça pourrait être utile. Donc, j'ai l'impression qu'un Schaefer pourrait être dans cette situation-là et qu'on va l'envoyer avec l'équipe Canada Junior. Évidemment, Jeff Lushenko, qui a déjà eu des matchs avec les Flyers, je pense que c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'on devrait voir tout ce monde-là avec l'équipe canadienne junior. Puis ça, c'est simplement l'avantage de Dale Hunter, disons. Là.
Alors, c'est sûr qu'on y va de prédiction, Martin, là, mais parmi cette cuvée de repêchage de la Ligue nationale en 2025, le gars que tu vois, le seul joueur que tu vois possiblement se tailler un poste pour le moment avec son équipe, lui qui a signé un contrat d'entrée avec les Islanders de New York, c'est Matthew Schaefer.
Ouais, exactement. Puis c'est drôle, hein, parce que je le répète, là, ouais. Moi, mes prédictions, disons, après le repêchage, ça aurait été de dire que Michael Nysa serait le seul. Mais Nysa m'a énormément déçu dans ce tournoi estival-là pour le Mondial Junior. J'ai trouvé qu'aussitôt qu'il y avait de la pression, aussitôt qu'on était capable de l'isoler le long des rangs, qu'il y avait peut-être un peu trop de pression autour de lui, il perdait la rondelle. En même temps, c'est du hockey de mois de juillet, c'est du hockey de mois d'août, c'est pas toujours évident. T'es pas nécessairement toujours dans ta forme de la saison régulière, c'est quelque chose qui est à surveiller dans le cas de Michael Nysa, donc on verra bien. Mais à la lumière de ce qu'on a vu dans ce tournoi estival-là, moi je pense que le seul que je pourrais voir, c'est Matthew Schaefer. C'est même pas une question de ce qu'il est de de calibre, et je l'ai souvent dit, je pense que c'est un défenseur qui est extraordinaire. Et simplement le côté physique, je pense qu'il a besoin de travailler un petit peu ça dans un calibre inférieur, que ce soit la... Ben là, il aurait pu avoir la NCAA, mais si celle-là, ce serait peut-être un peu plus la OHL. Et pour le reste, là, je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres candidats. Puis Schaefer, c'est vraiment une question extérieure. Tu as vu toute la promotion qui a été faite, le numéro 48, l'amener aux Mets de New York, la campagne publicitaire qu'on a fait autour de la signature de son contrat d'entrée. C'est beaucoup d'indices qui laissent penser qui va jouer dans la LNH, et c'est peut-être le seul du repêchage 2025, je pense.
Si on se concentre sur les espoirs du Canadien, évidemment, le nom sur toutes les lèvres, c'est celui de Michael Age, qui a été ignoré la saison dernière pour le championnat mondial junior. Est-ce que tu t'attends à le voir au sein de cette équipe-là cette année?
Moi, je pense que Michael Age, évidemment, on verra son début de saison à Michigan, ça va être très important, mais je pense qu'il est tombé dans l'œil d'un Dale Hunter dans le camp estival. Selon moi, Michael Age a été... le meilleur joueur de l'équipe canadienne. Il était sur le meilleur trio dans les deux derniers matchs. Il était avec l'espoir des Flames de Calgary, Cole Richney et le Québécois Sacha Boisvert. Ce trio-là a été de loin le meilleur. On était capable d'amener des échecs avant. On était très efficace au niveau du patin, donc de l'exécution du rythme. On était vraiment au-dessus de la moyenne dans ce camp-là. Et ce que j'ai aimé de chez The Age, c'est que oui, il était rapide. Ça, on le sait qu'un bon coup de patin, ça a toujours été sa qualité. C'est un gars qui a d'excellentes mains, donc tu sais, capable de jouer à haute vitesse. Mais ce que j'ai aimé, c'est que son jeu physique s'est amélioré. On en avait déjà eu un avant-goût au cadre perfectionnel des Canadiens. Il avait déjà pris 10 livres selon ses propres dires. Il était pas mal plus dans l'aise le long des rampes. Il était pas mal plus capable de sortir des coins avec la rondelle, mais surtout son jeu sur le 200 pieds. Et ça, Dale Hunter lui-même l'a vanté après quelques matchs. Là. Il a dit, son jeu sur 200 pieds est excellent. Il se positionne très bien dans sa zone. Ça n'a pas toujours été évident, Michael Age. Ça arrive parfois là, que c'est compliqué de simplement prendre son assignation et de faire de bonnes lectures de jeu. Mais dans ce camp-là, ça s'est très, très bien passé. Et son gros avantage, c'est qu'il est droitier, Michael Age. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de candidats dans la chaise de troisième trio, si on peut dire, à droite. Donc, j'ai l'impression que ça donne un avantage à Michael Age. Puis, c'est quand même un 21e choix au total qui aura 19 ans. Là, donc, ça aussi, c'est un gros avantage.
Tu vas faire plaisir à beaucoup de partisans, je pense, du Canadien, en parlant de Michael Age et en parlant de cette vitrine estivale qu'il vient de connaître avec Équipe Canada Junior. Est-ce qu'on pourrait voir d'autres espoirs du Canadien dans cette liste-là de joueurs pouvant faire partie de la formation, ou t'en doutes?
Ça a été une surprise un petit peu. On a vu Owen Brock dans le tournoi estival pour le mondial junior. T'sais, c'était pas nécessairement facile. Il y avait un nombre impair en raison du fait que Parek s'est blessé. Ils n'ont pas pris de chance. Là. Donc, Brock n'avait jamais vraiment un partenaire de défensif stable. Mais j'ai adoré ce qu'il a montré, au point où moi, dans mes prédictions, vous allez voir sur le podcast La Relève, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué pas mal mes choix. Là. Moi, je vois Owen Brock se tailler une place avec l'équipe. Pas au sein d'un top 6, peut-être, il jouera peut-être même pas de match, mais comme défenseur supplémentaire, de l'amener comme extra, si t'as des défenseurs qui ont plus de problèmes défensifs, que t'as besoin d'un gars physique qui va aller frapper dans les coins. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que Owen Prox, il savait qu'il avait pas un rôle offensif à l'apporter. Il savait qu'il allait pas transporter la rondelle. Il savait qu'il allait pas commencer à tirer au filet, commencer à déjouer 4-5 joueurs en même temps. Il savait qu'il devait bloquer des tirs. Il savait qu'il devait bien jouer défensivement. Savoir quand aller mettre de la pression le long des rampes, gagner ses bagarres et par la suite être en mesure d'avoir de bonnes relances et tout ça. Moi, je pense que dans son rôle, dans ce que Owen Potts devait faire, il a été excellent. Et je le compare un peu à ceux avec lesquels il pourrait se battre. Je pense à l'espoir des Blue Jackets de Columbus, Charlie Ehlich, un gros bonhomme, Spencer Gill et tout ça. Je pense que Potts a montré qu'il était peut-être un peu plus petit, mais plus physique et surtout plus fiable défensivement que ces deux-là. Donc moi, c'est ma prédiction audacieuse. Ben, ça reste un choix de quatrième tour. Là. C'est disons que les probabilités ne sont pas de son côté, disons.
Owen Brott, défenseur, tu fais mieux de le mentionner. Défenseur gaucher, 6 pieds 2, choix de quatrième ronde du Canadien en 2024. Évolué avec dans la OHL la saison dernière, 32 points en 67 matchs. On parlait notamment de Caleb Desnoyers dans une de tes réponses. Je veux savoir, est-ce que chez les joueurs de la LGMQ, il y a beaucoup de candidats potentiels? Caleb Desnoyers fait-il partie de cette projection d'équipe Canada junior pour la prochaine année?
Ouais, moi je place Caleb Desnoyers dans cette équipe-là. Il n'y a pas énormément de joueurs, par contre, je pense qu'il pourrait être là. Le gros désavantage, c'est que tu sais, la QV 2006, c'est pas celle-là qui a fourni le plus de joueurs de la LHGMQ au repêchage de la LNH. Souvent, qu'est-ce que ça fait en sorte? c'est que 2 ans plus tard, donc là, au Mondial Junior 2026, tu as peut-être un peu moins de joueurs. Donc, on dirait que j'en vois deux. Je vois Caleb Desnoyers. Bon, Caleb Desnoyers, oui, il a 18 ans, et je l'ai mentionné, il y a beaucoup de joueurs de 19 ans, donc ça va être compliqué pour lui de peut-être se tailler une place importante, mais j'ai l'impression, tu sais, on en a souvent parlé, Caleb Desnoyers, c'est un gagnant. Je peux pas nommer le nombre de tournois qu'il a gagné dans les dernières années. A gagné le trophée Gilles Courteau dans la LHGMQ, gagné le Mondial des moins de 18 ans, a gagné la Coupe Linka Gretzky, a gagné énormément de grosses compétitions majeures déjà dans sa jeune carrière et tout ça. C'est un gagnant, c'est aussi quelqu'un qui est très, très bon défensif. Donc, si tu veux le placer dans un rôle de quatrième trio ou comme 13e, 14e attaquant, que tu ne vas pas nécessairement utiliser souvent, mais que si tu as besoin d'apporter quelques ajustements, de donner un rôle plus important, d'amener un peu plus d'attaque lorsque ça va moins bien, mais je pense que Dale Hunter va être très heureux d'avoir Caleb Desnoyers, d'avoir son attitude, d'avoir le fait que, c'est ça, Desnoyers, là, tu peux lui parler de n'importe quoi, tu peux le placer dans n'importe quelle situation et il n'y a aucun problème, il va être en mesure de faire le travail comme il se doit, ce qui est la grande qualité des joueurs qui performe sous pression. Ça, c'est vraiment très important. Et petite anecdote, ben, il faut pas oublier que Gardiner McDougall, son entraîneur-chef avec les Wildcats de Moncton, est l'adjoint de l'équipe Canada du Nord. Donc, disons que ça aide pour le rôle. Par la suite, je verrais peut-être le Québécois Sacha Boisvert. Donc, pas de la LHJMQ, mais Boisvert, je l'ai mentionné tout à l'heure, a eu un excellent tournoi estival à l'aile. Il est un joueur de centre naturel, mais jouer à l'aile dans ce tournoi-là. Et si tu veux donner une identité d'équipe physique, tu veux quelqu'un qui va amener l'échec avant, qui a un bon coup de patin, qui est capable de brasser la cabane, justement, d'amener un bon échec avant et tout ça, j'ai l'impression que Boisvert, puis il y a beaucoup de candidats. Ça ne veut pas dire que Boisvert va se tailler une place. Mais moi, si j'étais des lanteurs, je l'inviterais pour cette raison-là, pour être capable de justement amener du rythme, aller s'installer en faux territoire, vraiment être en mesure d'amener quelque chose de marqué. Et encore une fois, si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui peut t'amener une bougie d'allumage parce que ça va moins bien, ben Sacha Boisvert, c'est quand même un choix de premier tour. C'est un gars de 19 ans également. Ça va être utile. Donc, on dirait que je vois ces deux-là. Pour le reste, malheureusement, Bill Zonneau n'a pas été invité au camp. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas nécessairement dans les plans d'équipe Canada junior. Et dans le cas de Justin Carbonneau, j'ai pas vraiment aimé son tournoi estival. J'ai trouvé qu'il est un peu trop invisible. Tu sais, c'est quelqu'un qui est très intense à Boisbriand. C'est quelqu'un qui est capable de signaler par des bons coups d'épaule, par son intensité. Il va aller au filet, il a un bon tir, des bonnes mains. Et j'ai trouvé qu'il était un peu trop invisible, ce qui a fait en sorte que des gars comme Age, comme Boisvert, ont peut-être un peu plus ressorti. Donc, j'ai comme l'impression que ce sera pas l'année de Justin Carbonneau. Et ça pourrait faire en sorte qu'on a simplement deux Québécois, disons.
Ouais, parce que dans le style de jeu de Justin Carbonneau, ça répond quand même, Martin, aux besoins d'un gars comme Dale Hunter, qui est l'entraîneur-chef du Canada lors du prochain Mondial Junior. Mais dans le cas de Carbonneau, évidemment, on s'attend davantage à ce qu'il fasse l'équipe, possiblement la saison prochaine et non cette année. Mais quand même, dans son style de jeu, habituellement, ce serait un candidat potentiel pour Dale Hunter.
Ouais, c'est clair, mais comme j'ai mentionné, c'est que t'as beaucoup de candidats qui peuvent remplir le même rôle. Il y a pas eu nécessairement un bon camp. Moi, je n'ai pas placé Barry Martin dans mon équipe. Ça fait mal, parce que Barry ouais. Martin, ou un très bon tournoi estival, a été repêché plus tôt et probablement plus physique et capable d'aller un peu plus au filet. A de bonnes mains également. C'est quelqu'un qui entre un peu plus dans ta configuration de joueur de quatrième trio. Ça, malheureusement, ben ça passe devant Justin Carbonneau. Et petite parenthèse, comme Justin Carbonneau est un late, ce qui veut dire qu'il est né à l'automne et tout ça, ben ça veut dire que Carbonneau ne peut pas jouer au Mondial Junior pour 2027. C'est là ou jamais. Donc ça, c'est peut-être à noter aussi.
On souligne sur le clavardage YouTube, Martin, que c'est une des rares fois qu'on te voit sans casquette. Effectivement, habituellement, c'est vrai que t'abordes toujours une casquette. Tu dois faire chaud en ce moment, là, où est-ce que tu es actuellement?
Ben là, je suis à l'ombre, donc ça va très bien en ce moment. Si je me tassais de quelques pas et que j'étais dans le soleil, là, je te confirme qu'il était très, très chaud. Et petite parenthèse pour les amateurs de BPM Sport, j'ai croisé Anthony Marcotte sur le terrain tout à l'heure. Un magnifique roulé, il va pouvoir se vanter de tout ça.
C'est bon.
La prochaine fois qu'il va reprendre le micro. Là.
merci des détails concernant Anthony Marcotte. Je veux te parler de Keaton Verhoef qui a été sensationnel, Martin, aujourd'hui, dans le premier match à la Coupe Linka Gretzky. Un but, une passe. Joueur du match et le capitaine de cette équipe-là à la Coupe Linka Gretzky du Canada. On parle d'un défenseur droitier 6 pieds 4. Et là, on voit de plus en plus d'informations circuler sur les réseaux sociaux. Est-ce que Kayton Veroff peut vraiment rivaliser un Gavin McKenna en vue du repêchage de 2026 dans la Ligue nationale. Parce qu'il est très bien fait encore une fois aujourd'hui. Et écoute, un défenseur comme ça de 6 pieds 4, ça intéresse pas mal d'équipes dans la Ligue nationale.
C'est sûr que ça fait sa grise équipe. Tu sais, un 6 pieds 4 pouces, 212 livres, il a simplement 17 ans. Il va se diriger dans la NCAA du côté de North Dakota l'an prochain. C'est clair que sa cote est là. C'est clair que les équipes vont être intéressées. Là, je veux faire attention. Parce que parfois, de dire ça à peu près un an avant l'encamp, ça peut te faire mal paraître. Beaucoup de choses peuvent changer.
C'est vrai.
Mais je te dirais qu'en date du 11 août 2025, là, de dire que Kayton Veroff pourrait devancer Gavin McKenna, moi, selon moi, c'est complètement farfelu. Il est bon, là, que Kayton Veroff. C'est un gars qui transporte bien la rondelle. C'est un gars qui a un bon tir. Tu sais, justement, il a beaucoup de confiance, donc capable d'amener beaucoup de chaos en attaque. C'est un gars qui est quand même physique aussi le long des rangs. Moi, personnellement, je trouve que son jeu défensif est à peaufiner. Je trouve que c'est pas toujours idéal. C'est quelqu'un qui, parfois, connaît les crampes au cerveau, commet une mauvaise passe, et là, ça se transforme un peu en revirement, ça devient un peu plus compliqué. C'est un peu le gars dans le moule des genres de défenseurs format géant qu'on a vu repêcher quand même tôt dans les dernières années. Je compare pas nécessairement le style, mais je pense à Artem Levchunov en 2024, le deuxième choix au total des Blackhawks de Chicago. C'est un peu dans le même moule. Donc, c'est quelqu'un qui peut être repêché tôt. Le consensus le place deuxième. Ça, c'est clair que ça mérite d'être considéré. Mais c'est parce que là, tu as Gavin McKenna. Gavin McKenna, faut quand même pas oublier que le gars vient d'être nommé joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey. Alors qu'il a complètement tout ravagé sur son passage. Ses mains sont extraordinaires. Il est capable de faire de la magie que, honnêtement, personne ne peut réaliser. Même des McDavid, même des Bédard, même des Pasternak et compagnie, même ces joueurs-là n'ont pas parfois la brillance de faire les jeux qu'il peut accomplir. Donc, tu sais, c'est un peu... Je comprends un peu, là, ça fait un peu saveur du mois. Là, on parle de Kayton Veroff et c'est sexy d'en parler abondamment. Mais de là à dire qu'il va être meilleur que Gavin McKenna, moi, je me calmerais un petit peu, ou du moins pour l'instant, là, parce qu'il y a des chaussures pas mal... Disons que la barre est haute s'il veut être en mesure de devancer un McKenna.
Rappelle-toi la séquence de 54 matchs consécutifs de McKenna la saison dernière, avec au moins un point par match. Il avait été extrêmement dominant. Alors, c'est certain que d'amener une discussion comme celle-là concernant McKenna et Veroff, pour moi, c'est prémédité un peu, là, concernant le talent de McKenna qui est immense. Alors, tu sais, de voir des séquences de matchs avec au moins un point comme ça dans la saison dernière, c'était extrêmement impressionnant de la part de McKenna. Mais j'ai hâte de voir la prochaine année quand même, de voir l'évolution d'un McKenna qui a été sensationnel cette année, mais aussi de Veroff, de qui on parle de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Je veux t'amener sur les joueurs spéciaux à surveiller pour le Canada dans ce tournoi-là de la Coupe Linka-Gretzky qui est en cours. Victoire du Canada, je veux le rappeler aujourd'hui, par la marque de 5-3 contre la Finlande. Et les États-Unis mènent 4-3 contre la Slovaquie à l'heure actuelle. Mais parmi les autres joueurs à surveiller, qui tu pourrais nommer pour ceux qui aimeraient suivre ce tournoi-là et avoir des joueurs qui aimeraient surveiller pendant cette période-là?
Moi, je vois que j'ai énormément hâte de suivre. Puis, tu sais, humblement, là, présentement, comme je suis avec les mandats pour la LGMQ, je n'ai pas regardé les matchs, je vais le faire plus tard ce soir. Là. Mais moi, j'ai hâte de voir Ethan Belchitz, que donc j'ai vu qu'il a obtenu un but et deux heures. Il était le meilleur pointeur du côté du Canada ce matin. Ethan Belchitz, là, c'est pas compliqué. Je vais faire une comparaison comme ça. Là. Ça fait longtemps que je regarde les espoirs. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un joueur qui me faisait penser autant à Eric Lindros comme Ethan Belchitz. Coup de patin électrisant. Premièrement, il est déjà 6 pieds 5 pouces à 17 ans. C'est un monstre pour la patinoire. Et tu sais, sa façon de protéger la rondelle, sa façon de déborder hors l'aile, d'attaquer un défenseur adverse, d'être en... Puis tu sais, d'avoir énormément de confiance, tenter des jeux quand même, tenter de tricoter. Puis là, ben, tu te retrouves autour du filet, il a d'excellentes mains. Il est capable de marquer, il est capable de faire de bonnes passes. Un gars qui est très robuste également, c'est quelqu'un qui peut frapper, n'a pas peur de jeter les gants. Là, on le verra peut-être pas jeter les gants dans la Coupe Linka-Gretzky, c'est pas nécessairement l'endroit privilégié, mais c'est de dire que si tu veux un joueur, et c'est un ailier, là, c'est pas un joueur de centre, c'est un ailier, mais si tu veux un joueur de format géant, qui est dur à affronter, qui va être potentiellement une vedette, parce que tout le monde veut justement des gros bonhommes de 6 pieds 4, 6 pieds 5 pouces, ils sont toujours repêchés très tôt. Pour cette raison-là, moi, j'inviterais les amateurs à surveiller Ethan Belchitz, parce que là, présentement, on en parle peut-être un peu moins, mais tu sais, dans la conversation, tu me parlais qu'Ethan Veroff, ça, c'en est un. Je pense à un Ivar Stenberg, un Suédois qui est très, très bon également. Je pense que Belchitz mérite d'être dans cette discussion-là. je serais pas surpris qu'à la fin de l'année, j'en parle comme le deuxième meilleur espoir. Là. Il est bon à ce niveau-là, à ce point-là. Là.
Dans le cas de Lyndon Dupont aussi, là, c'est un joueur qui fait partie de l'équipe canadienne à la Coupe Linka-Gretzky. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Lyndon Dupont pour le monde qui voudrait le surveiller?
Évidemment, il était surveillé. Hein. Quand tu parles d'un joueur de la trempe, on parlait de McKenna.
Ouais.
Quand tu es dans la trempe des McKenna, des Connor Bedard, des Connor McDavid, des Sidney Crosby, ben là, Lyndon Dupont, c'est ça. C'est un joueur au statut exceptionnel de la WHL. Et je vais simplement parler des statistiques. 60 points en 64 rencontres l'an dernier. Pour les joueurs de moins de 17 ans dans toute l'histoire de la Ligue canadienne de hockey, il a été 11e meilleur pointeur chez les défenseurs. Et il y a 15 ans, tout le monde qui a fait ça, qui a fait mieux que lui, avait 16 ans. Et c'est hallucinant parce que, tu sais, les joueurs de 15 ans, habituellement, bon, tu vas voir énormément de potentiel. Je me souviens de Connor Bedard à 15 ans. Les mains étaient extraordinaires. C'était quelqu'un qui avait un tir dévastateur. On sait qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Mais tu peux quand même dire, il a moins de coups de patin. Mais c'est normal, il y a 15 ans, il va l'améliorer. Il va prendre de la force, il va prendre de l'expérience. Il n'est pas nécessairement très gros physiquement. Encore une fois, ça va s'améliorer. On ne paniquera pas pour l'instant. Mais Dupont, pour un gars de 15 ans, a déjà un coup de patin au-dessus de la moyenne. C'est déjà quelqu'un qui a un niveau offensif hallucinant. Il transporte la rondelle d'une zone à l'autre très rapidement, capable de trouver les ouvertures. Un peu un talent à la Kelmacher pour bouger au long de la ligne bleue. C'est ce qui est impressionnant dans le cas du pont. Et surtout, surtout pour un gars de 15 ans, je trouvais que défensivement, il était très solide. Il a un bon bâton. Il est capable de bien jouer un contre un. Il est actif. Il est capable de repousser les adversaires le long de la rampe et par-dessus le marché. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un coéquipier se fait brasser, d'aller se porter à sa rescousse, d'aller se défendre, d'aller jeter les gants. C'est un leader, Lyndon Dupont. C'est quelqu'un qui a une chance d'être un capitaine ou voire un assistant dans la LNH et de voir qu'est-ce qu'il accomplit là à 16 ans. Là, c'est phénoménal. Honnêtement, là, il y a des gens qui le comparent à Bobby Orr.
Ouais.
Je suis pas en train de dire que ça va être un Bobby Orr, c'est pas ça du tout. Mais c'est un gars qui va être spécial. Surveillez ce nom-là. Ça risque d'être un des très bons défenseurs dans la LNH au cours des prochaines années.
Parce que dans le cas de Lyndon Dupont, on s'entend que pour le moment, évitablement, c'est le choix logique comme premier choix au total en 2027. Mais est-ce que je ramène un peu à l'année de repêchage de Kyle McCarr qui a été repêché quatrième par l'Avalanche du Colorado. McCarr, est-ce qu'on pouvait voir à ce moment-là que ce serait un défenseur aussi élite dans la Ligue nationale? Il se rapprocherait de quel niveau un gars comme Lyndon Dupont?
C'est pas vraiment la même chose parce que Kelmacher, on voyait des belles choses. Là, je veux dire, je l'adorais dans la liste du repêchage de 2017. Je l'avais troisième. Là, c'est quelqu'un que j'adorais. Mais c'est quand même quelqu'un qui jouait dans les JHL, une ligue équivalente au Junior A, si tu veux. T'avais quand même certains doutes. Kelmacher devait aller prendre de la force physique. C'est encore pas un défenseur très imposant. Ça lui a vraiment pris 2 ans dans la NCAA. À apprendre de la force physique, à s'améliorer, à aller dans le gymnase, à vraiment se renforcer physiquement. Et lorsqu'il est arrivé avec l'Avalanche, c'est là qu'on a vu le Kelmacher qu'on connaît aujourd'hui. Alors que Dupont, à 15 ans, et puis là, il faut faire attention parce que n'importe quel joueur se développe de façon différente. Mais Lyndon Dupont est bien en avance sur un Kelmacher en ce moment. Donc, ça permet de rêver, mais tu l'as bien mentionné. Là, on est en 2027. J'ai un nom qui m'effleure rapidement comme ça. Un Alexis Joseph, notamment, qui va être admissible à ce repêchage-là. C'est un gars de 6 pieds 4 pouces, il a un bon tir, c'est un gars qui est gros, qui a un bon coup de patin, qui est très complet. Est-ce que dans 2 ans, avec le développement, il pourrait se rapprocher d'un Dupont? Je ne penserais pas, mais c'est une possibilité aussi. C'est pourquoi tu ne peux jamais dire nécessairement. Il est très bon en 2025, qu'est-ce que ça va donner en 2027? Ben, il reste 2 ans de développement.
T'sais. Exactement. Le repêchage de 2027 quand même, mais dans le cas de Lyndon Dupont, c'est un talent exceptionnel. Martin Thériault du podcast La Relève, un gros merci. Très apprécié. On te laisse aller à tes occupations et puis on se reparle très, très, très bientôt. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui.
Ça fait plaisir, FX. Tu m'appelles n'importe quand.
Un gros merci. Je le sais, t'es toujours disponible, toujours gentil de prendre le temps de nous jaser. Merci beaucoup, Martin.
Un privilège. Je te remercie, moi, je te remercie.
Merci beaucoup, Martin Thériault du podcast La Relève. Alors, un aperçu un peu de la formation canadienne pour ceux qui veulent suivre la Coupe Linka-Gretzky, les meilleurs joueurs de moins de 18 ans. Et je vous rappelle cette victoire du Canada de 5-3 aujourd'hui contre la Finlande à la Coupe Linka-Gretzky.